Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole sur Africa Radio chaque jour, du lundi au vendredi. Vous pouvez réagir à l'actualité, nous faire part de vos analyses et de vos témoignages sur les sujets qui vous concernent en toute liberté. Dans le JDA, aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, Algérie et Soudan, l'acte 2 du printemps arabe. En quelques mois, la mobilisation dans ces deux pays a conduit à la démission des présidents au pouvoir pour les manifestants. Il s'agit désormais de refuser tout régime militaire. Alors quel regard portez-vous sur ces contestations? Sont-elles comparables et comment garantir des transitions démocratiques? Pour participer, je rappelle le numéro, le 33 1 55 07 58 0 0. Vous nous appelez et on vous rappelle. Vous pouvez également nous laisser vos messages sur la page Facebook de l'émission, www.facebook.com/journal des auditeurs, ou alors envoyez vos messages également sur WhatsApp. Je redonnerai le numéro dans quelques instants. Avant cela, sans plus tarder, la séquence incontournable de cette émission, je veux dire le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Allô, Africa numéro 1, dites-moi, je vous appelais, j'étais juste en train d'entendre ce que vous étiez en train de dire sur les transferts d'argent. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est grâce à ces transferts d'argent qu'aujourd'hui, malheureusement, nos gouvernements restent en place, puisque ce sont les étrangers, la diaspora, qui sert de soupape dans certains pays. Vous prenez un pays comme le Sénégal, si les gens ils s'en sortent, c'est parce que leurs familles à l'étranger leur envoient de l'argent. Donc s'ils devaient juste se baser sur l'État, il y a longtemps qu'il y aurait eu une révolution, un printemps Afrique de l'Ouest, depuis très longtemps. Donc malheureusement, et heureusement que nous aidons nos familles, mais malheureusement, ça fait aussi le jeu de nos dirigeants en politique, et de l'Europe et de l'État français, puisque la gronde, elle est moins virulente. Je vous remercie.
Oui, bonjour, amis auditeurs d'Africa numéro 1, c'est Jomo Debeng. J'appelle ce matin pour réitérer encore à mes frères ivoiriens de tous les bords, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, de l'unité des deux leaders, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara et le président Bédié. Le président du Sénat ayant donné le coup d'envoi de cette réconciliation, je demande à tous les Ivoiriens de s'unir comme un seul homme derrière nos deux grands leaders.
Bonjour Madame Hartmann, bonjour les amis des UDA, le peuple africain et tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Nous avons la compassion avec Notre-Dame qui vient de prendre le feu. Nous sommes vraiment tristes parce que c'est un grand monument pour la religion chrétienne, c'est un grand monument pour un grand patrimoine de la France. Nous sommes vraiment, vraiment merci parce que nous venons de perdre un grand monument que les touristes, quand ils viennent du Congo, ils passent par là. Beaucoup de Congolais aiment, quand ils viennent en France, passer par Notre-Dame de Paris. Un jour, ça va être rebâti pour que les touristes congolais viennent encore visiter Notre-Dame de Paris. Aïko Motongi, résistant combattant RCK.
Ah, amis du GDA, quand je pense à la cathédrale de Paris qui brûle, cette cathédrale qui doit faire 857 ans cette année, ah, quand je pense à différents monuments historiques qui ont péri dans le monde, quand je pense à la mosquée de Tombouctou construite au XIe siècle, quand je pense aux monuments qui ont été dévastés par la guerre, par les bombardements en Syrie, en Irak, qui ont plus de 1000 ans, qui ont certains près de 3000 ans. Ah, quand je pense à la bibliothèque de Cheikh Anta Diop qui a brûlé au Sénégal. Oh, amis du JDA, je me demande où va l'histoire, où va le monde. Est-ce une injustice? Où est-ce la justice, amis du JDA? Vraiment, je voudrais terminer par là. Mais je pense que la cathédrale de Paris ne sera plus comme celle qu'elle était avant. Ce qu'elle était avant. Allez, amis du JDA, salut.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous les chats d'Africa Radio. Alors, en parlant du sujet d'aujourd'hui au JDA, sur le printemps, le mini-printemps arabe, disons, donc en Algérie et au Soudan, moi je dirais que c'est un succès pour les deux peuples, déjà, parce que le fait que ceux qui ne voulaient plus voir au pouvoir, l'un a démissionné, l'autre a été destitué, ça veut dire que la pression a payé. Les revendications ont été entendues et la peur est rentrée dans ces deux leaders-là et dans leur clan. Et ils ont trouvé mieux de faire démissionner l'autre, donc en Algérie, Bouteflika, et de destituer Omar El-Béchir. Omar El-Béchir, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que c'est les militaires qui sont là de deux côtés et qui sont restés au pouvoir pendant très longtemps. Donc ils connaissent un peu comment les choses se passent.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, nous attendons vos analyses sur les situations en Algérie et au Soudan. Peut-on parler d'un deuxième acte des printemps arabes? On se rappelle qu'il y avait eu lieu notamment en 2011. Quelle comparaison peut-on faire entre les situations en Algérie et au Soudan? Au Soudan, conseil de militaires de transition, TMC en sigle, qui est composé d'une dizaine de groupes d'officiers supérieurs, avec à sa tête le général Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman, a été formé. Les manifestants, cependant, demandent sa dissolution et appellent les militaires à confier le pouvoir à un civil. En Algérie, la destitution d'Abdelaziz Bouteflika a conduit à la nomination d'Abdelkader Ben Salah, lui-même un des piliers du régime, qui devient alors président par intérim. Des élections présidentielles sont prévues le 4 juillet prochain, mais les manifestants craignent qu'on leur vole leur révolution. Qu'en pensez-vous? La parole est à vous sur Africa Radio. On commence avec Martial. Martial, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Martial, bienvenue dans le journal des auditeurs.
Mais merci de l'honneur que vous me faites, dans ce cas-là. Mais écoutez, je viens à juste titre dire que, vous savez, quand on est un parent et qu'on a des enfants à la maison, vous pouvez avoir 2, 3, 4 enfants qui ne vont pas réagir tous de la même façon. Donc, vouloir singer l'Algérie pour appliquer les mêmes données au Soudan, je crois que c'est un échec que le Soudan est en train de s'infliger.
On peut pas vraiment dire, Martial, si vous permettez, que le Soudan singe l'Algérie, parce qu'au Soudan, la contestation a commencé il y a longtemps, au moins. Elle s'est accentuée depuis décembre, mais l'association qui est à la tête de la contestation, l'association des professionnels du Soudan, avait déjà commencé à manifester en août 2018 pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat.
Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais cependant, si depuis ce temps-là, Béchir est resté au pouvoir, s'est maintenu au pouvoir, ce n'est pas pour rien. Donc, aujourd'hui, quand on regarde le printemps, le premier printemps arabe, s'il faut dire ça comme ça, ça a été un échec sur toute la ligne. Et je dis aujourd'hui que une chose est certaine, si donc ces gens-là veulent et pensent qu'ils sont, veulent faire la révolution, qu'au sortir de là, on a arrêté le président Béchir. L'autre, il a démissionné. Alors, je dis une chose, il faut que, au sortir de là, maintenant, ils ont les éléments entre les mains, pour qu'au sortir de là, ils se dotent d'une constitution qui ne va plus permettre ces choses. Mais ce que je redoute, c'est tout simplement que, Stéphanie, ils ressortiront de là, les mains vides, et les mêmes problèmes vont recommencer. Je vous mets au défi, et rendez-vous d'ici quelques temps,
vous verrez bien. Vous dites, Martial, vous avez fait comparaison avec 2011, on a vu, en 2011, on a parlé des révolutions en Tunisie, en Égypte, on a vu ce que ça donnait aussi en Libye et en Syrie. Vous craignez finalement que ça devienne pareil en Algérie, au Soudan, qu'il y ait des contre-révolutions, des situations d'insécurité?
Non seulement l'insécurité, mais je vous dis que c'est des révolutions pour rien. C'est des révolutions pour rien. Et quand bien même, s'il faut donc que ces révolutions soient des révolutions dignes de ce nom, que ces pays-là, pour le cas de l'Algérie et du Soudan, qu'ils sortent de là avec une loi qui ne permettra pas au président de la République d'être au pouvoir après 90 ans, ou à partir de 90 ans, ou je ne sais pas trop quoi, qu'ils se dotent d'une constitution qui limite un certain nombre de problèmes qu'ils ont décliés aujourd'hui et qu'ils sont en train de déclier. Mais si on sort de là, Madame Stéphanie, avec les mêmes gens qui vont se plaindre des mêmes problèmes, comme si le passé ne leur a pas servi d'exemple, à quoi donc ça sert? Donc, je dis quelque part que singer l'Algérie, ce n'est pas une solution. Ça, c'est se garantir un échec. Et je dis que toutes ces deux révolutions-là sont vouées à l'échec. Je vous le garantis et vous verrez bien.
Voilà. Rendez-vous est pris, Martial. Martial qui estime hein, que rien n'aboutira, rien de positif hein, n'aboutira à ces contestations. Merci beaucoup, Martial. Bonne journée à vous. Avant de se rendre à Conakry, écoutez, Tierno, on va à quelques messages peut-être sur WhatsApp. Il y a le fidèle Juan qui dit « Bonjour, c'est Juan. Le pain a eu raison du fauteuil présidentiel au Soudan. » En effet, hein, la contestation a commencé en décembre, hein, après la hausse du prix du pain. Tierno, bonjour.
Allô ?
Ah, bonjour Tierno.
Oui, bonjour, cher Stéphanie Hartmann. Bonjour à l'ensemble des amis auditeurs et auditrices de JDA.
Bonjour à vous, Tierno. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu Martial qui dit finalement les révolutions, ça sert à rien. En tout cas, pas celle-ci. Qu'en pensez-vous ?
Bon, je suis pas entièrement avis avec lui, mais je partage un peu parce que vu ce qui s'est passé dans certains pays, si on prend l'exemple de la révolution égyptienne, libyenne, syrienne et yéménite, a été des échecs purs et simples. Mm. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui encore, ce qui s'est passé en Algérie, au Soudan, la victoire du peuple a été confisquée par l'entourage du président. Très malheureusement, ce sont les chefs d'État qui tombent, pas le système en place, alors que ce sont ces clans, l'entourage, les caciques du pouvoir qui a poussé le peuple d'aller à la révolution. Donc, il faut que le peuple reste debout, le peuple soudanais reste debout, parce que ce n'est pas du tout possible qu'un militaire, ancien poste de Bachir, gère la transition pendant 2 ans. C'est de la folie, c'est pas quelque chose qui est possible. Donc, il faut que le peuple soit encore plus déterminé. Prends l'exemple sur le peuple burkinabé, parce que ces 10 dernières années, moi, je pense que le maire révolution reste la révolution du peuple burkinabé. Vu ce qui s'est passé au Burkina, lorsque M. Compaoré a compris qu'il ne pouvait plus continuer d'exercer le pouvoir au Burkina Faso, il a fait déclaration contre coup d'État, contre son régime, puis il y avait un général...
Alors, justement, Tierno, vous avez dit, Tierno, ce sont les chefs d'État qui tombent et le système reste. Puisque vous soulignez la révolution au Burkina Faso, est-ce que le système est vraiment tombé au Burkina ?
Le système est vraiment tombé parce que le peuple a resté debout. Ouais, c'est pas un militaire qui a géré la transition, c'était un grand intellectuel, M. Kafando, qui est venu. Il a géré la transition. Entre temps, il y avait Gilbert Diendéré qui a voulu se mêler et interrompre la transition, mais le peuple a encore résisté. Donc, vu la finalité, ce sont les cadres qui sont venus, comment dirais-je, les anciens opposants, c'est pas les opposants historiques, mais des opposants qui étaient là contre la modification qui sont venus au pouvoir. Donc, à mon avis, c'est des exemples à suivre au lieu de prendre juste pour faire tomber le chef d'État et laisser le système en place. Vu ce qui se passe en Algérie, vous avez eu le tout nouveau dirigeant qui est en train de malmener le peuple parce qu'il est là à faire maintenant face à la manifestation. Donc, le système est en place. C'est le chef qui est tombé, mais c'est le système qui est là, très malheureusement. Il faut que le peuple soudanais reste debout, sinon leur combat sera mis dans l'eau, parce que c'est 2 ans, 3 ans après, ce sont les caciques du régime d'El Béchir qui viendra encore se dire blanc et gérer, continuer de gérer le pays. C'est pas du tout possible. Il faut que on planifie bien de bonnes stratégies après la révolution, pendant et après la révolution. C'est pas que la révolution qui est importante, mais après la révolution. C'est
quelque chose. Il faut penser à l'après, vous dites, Tierno.
C'est très important. Merci. Le peuple yéménite et libyen a été pris à piège. C'est comme ça aussi en Syrie. C'est quelque chose qui est très regrettable. La révolution.
Après, on peut dire, puisque, je vous remercie, Tierno. Je suis désolée, mais vous avez toujours du mal à finir vos propos. Si on fait le bilan des printemps, ce qu'on appelait les printemps arabes, des révolutions arabes de 2011, effectivement, il y a eu certains échecs concernant la Syrie, la Libye et le Yémen, nous dit Tierno. On peut s'interroger sur ce qui se passe en Tunisie, voilà, où finalement le régime de Ben Ali est plutôt tombé. À quoi ressemblent la révolution aujourd'hui tunisienne, les lendemains de révolution. Pas sûr que ce soit un échec. On va demander à Djibril ce qu'il en pense. Bonjour Djibril.
Oui, bonjour.
Bonjour Djibril. J'ai entendu les uns et les autres peut-être dire, voilà, faut faire attention, faut penser à l'après. Hein. Les auditeurs avaient beaucoup en souvenir les situations en Libye, Yémen et en Syrie. Qu'en pensez-vous?
Moi, je vous dis bonjour, je remercie pour l'accueil. Mais les deux personnes qui m'ont précédé ont à peu près un peu tout dit, parce que vous parlez de la Tunisie, je ne pense pas que ça soit une réussite. Parce que certes, il n'y a pas le chaos, il n'y a pas de guerre, mais aujourd'hui, les raisons pour lesquelles les peuples se sont levés les premières fois, ces raisons existent toujours.
Il y a une liberté d'expression beaucoup plus grande en Tunisie quand même. Il y a la commission Vérité et Réconciliation aussi, la commission des droits de l'homme qui a fait un certain travail, non?
D'accord, mais si on finit de faire tout ça et qu'on a toujours faim, et que les mêmes personnes qui cherchaient de l'emploi n'ont toujours pas d'emploi, est-ce qu'aujourd'hui...
Vous dites économiquement, finalement, la Tunisie va pas mieux, c'est ce que vous dites.
Oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont pas... qui nous montrent... Moi, j'ai discuté le jour avec un Tunisien qui dit que c'est pire que, voilà, que sous l'autre régime. Et moi, je dis aujourd'hui, c'est pas le régime militaire, c'est pas le régime civil qui pose le problème. Moi, aujourd'hui, c'est l'Africain lui-même. Je pense qu'aujourd'hui, l'Africain, avec tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, on doit comprendre qu'on doit être discipliné. Voilà ce qui manque à l'Africain aujourd'hui, à l'Afrique en général. Parce que si on est discipliné, on pourra mieux s'organiser. Si on est mieux organisé, on pourra avoir une vision stratégique. Aujourd'hui, comme il a dit M. Tierno, l'Africain a une vision à court terme. Celui-là ne me plaît pas, je l'enlève. Ok, on l'enlève, on fait quoi après? Vous avez un militaire qui a réussi, vous avez le Ghana aujourd'hui. Le Ghana, il est le Ghana aujourd'hui parce qu'il y a un militaire qui a tout fait pour que son pays soit stable. Jerry Rawlings, c'est un militaire.
D'ailleurs, il n'y est pas allé de main morte, parce que quand Jerry Rawlings a pris le pouvoir, il a fait fusiller un certain nombre de dignitaires de l'ancien régime accusés de corruption.
Ok, voilà. Donc du coup, aujourd'hui, tout le monde est en train de regarder le Ghana. Ça n'était pas bon, mais aujourd'hui, tout le monde est en train de regarder le Ghana. C'était un militaire. Donc aujourd'hui, c'est pas le régime militaire, c'est pas le...
Regardez là. Vous dites, c'est-à-dire que finalement, un régime militaire n'est pas si mauvais en soi. C'est ce que vous dites, si je comprends bien, Djibril.
L'homme africain. Qui ce soit, c'est l'homme africain. Regardez l'Égypte. L'Égypte, on a dit Moubarak, mauvais. On a levé Moubarak. Ceux qui sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait?
C'est-à-dire qu'il y a eu un président élu, d'ailleurs le pauvre dont le nom va m'échapper, hein, issu des frères musulmans, qui a été ensuite dégagé par l'armée. L'armée a repris le pouvoir en Égypte.
Donc du coup, l'armée elle est partie, après elle est revenue. Aujourd'hui, le Soudan, on dit le peuple dit que oui, il veut,
merci, le président.
D'accord, on va mettre le civil. Mais le civil, il va diriger le pays avec qui? Il lui faut un chef d'état-major, il lui faut l'armée, il lui faut la gendarmerie, il faut la police. Mais cette armée, cette police, cette gendarmerie, qui l'a mis là? C'est le même qu'on a dégagé. Donc, le fait aussi, c'est que ceux qui sont là aujourd'hui à pousser à faire la révolution ne sont pas sincères, même avec le peuple qui est en train de suivre. Parce qu'une fois là, ils ne font pas ce dont pour que le peuple se rende compte qu'au fait, ils ont été trahis. Donc, c'est l'Africain lui-même qui doit changer, au fait. Il faut qu'on comprenne ça. Tant qu'on ne va pas comprendre ça, on va rester toujours là où on est. Dans la médiocrité. Je suis désolé. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, faut qu'on arrête de suivre les gens comme ça parce qu'il faut le suivre, mais il faut qu'on suive les gens parce qu'ils sont capables déjà de construire des écoles, des hôpitaux, des routes.
Vous voulez des leaders, que les Africains soient disciplinés derrière leur leaders et des leaders visionnaires, si j'ai bien compris. Mon cher Djibril, merci beaucoup, hein, Djibril. C'est le site en ligne, Slate, qui s'interroge, il dit concernant ces situations en Algérie et au Soudan, en comparaison avec les mouvements de 2011. Hein, le site Slate écrit ceci, s'interroge et dit « Provoqueront-elles le même effet? Déboucheront-elles sur un changement de droit sans altération profonde des structures d'un système vieux de plusieurs décennies? L'armée prendra-t-elle le dessus? Qu'en est-il des réponses apportées par les gouvernements post-révolution ?» aux causes profondes de ce ras-le-bol populaire. Jean, bonjour.
Bonjour, bonjour la sœur Atman.
Bonjour,
je ne suis pas bien. Oui, je fais un effort, là, je ne suis pas bien. Là.
Il ne faut pas appeler Jean si vous êtes malade. Hein. Non, personne ne vous oblige.
Oui. Bon, c'est-à-dire, la situation... Oui, je voulais dire, ça sera bref. La situation, le départ de la révolution du Soudan qui a fait chuter M. El-Béchir, c'est parti pour la hausse du prix de pain, si je comprends bien. Ça a commencé par la hausse du prix de pain.
Tout à fait.
Bon, jusqu'à la chute du gouvernement. Mais cette même situation se reproduit au Cameroun. Il y a 4 à 5 ans, le peuple camerounais, la jeunesse...
Les émeutes de la faim en 2008, c'est bien ça, Jean.
Voilà. Donc, la jeunesse est sortie pour la hausse du prix de pain. Monsieur Paul Biya a massacré la jeunesse camerounaise et le peuple camerounais. On n'a pas entendu la réaction de la France, ni de l'Union européenne, ni de la CEDEAO, ni d'autres pays. Rien, on n'en a pas entendu parler. Il y a des jeunes qui ont disparu et que les familles n'ont pas des traces jusqu'à aujourd'hui.
On en a parlé au moins on en a parlé sur cette radio, mon cher Jean. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, s'il vous plaît?
Comme El-Béchir, c'était l'ennemi numéro un des États-Unis, de l'Union européenne et tout, moi je ne dis pas qu'il devrait partir, c'est un dictateur, je suis content qu'il est parti. Mais les réactions fusent alors que M. Paul Biya a fait la même chose, il est là tranquille. Il se balade partout.
Et c'est Sensi qui dit ça d'ailleurs, Jean. Merci Jean de votre contribution. Et puis soignez-vous bien, hein. restez au chaud. C'est Sensi qui dit à peu près la même chose que vous hein, sur WhatsApp et dans votre message. Il dit le peuple fait partie d'un dictateur lorsque les Occidentaux acceptent son départ. La preuve, Paul Biya est toujours là, nous dit Sensi. Wan a ajouté quelque chose concernant le Ghana. Il a dit oui, voilà, que J.K. Rowling avait fait fusiller les voleurs au Ghana. Qu'est-ce qui n'est pas passé? 33 1 55 07 58 00 pour intervenir. On va écouter William, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie et bonjour à tous les bêtises d'Afrique Radio.
Bonjour William. Alors tiens, justement, oui. Jean évoquait la communauté internationale, ce qu'on appelle l'Union africaine, l'Union européenne et consorts. On va parler un peu de l'Union africaine, hein, finalement, qui a menacé hier de suspendre le Soudan de son organisation si l'armée ne quittait pas le pouvoir au profit d'une autorité politique civile d'ici 15 jours. Quel rôle pour l'Union africaine, William, dans ces contestations Algérie-Soudan? On l'a moins entendu concernant l'Algérie.
Oui. Non, aucun rôle, Stéphanie. De toute façon, l'Union africaine va jouer quel rôle? Ça, c'est des histoires, Stéphanie, on appelle ça en français. Parce que ils attendent seulement quand le peuple commence à se révolter, et une fois gagné son combat, et ils viennent parler. Moi, je ne pense pas que l'Union africaine puisse être un modèle pour dire quelque chose contre ces peuples-là, ou en faveur des peuples qui se révoltent. Parce que tous, ils sont logiquement dirigeants dans leurs pays respectifs. Vous voyez, donc d'une manière ou d'une autre, ils occupent des postes, des grands postes, donc ils coopèrent avec l'international aussi, donc l'Occident et le confort. Donc ça, c'est juste pour chercher à dire, bon, oui, nous aussi, nous avons le partageant le souci de ces peuples qui attendent souffert. C'est pas ça. Moi, je veux revenir sur la vraie question, Stéphanie. Maintenant, la question qui doit se poser, à qui va profiter cette révolution? Les deux révolutions, s'il faut dire. Donc, disons, en Algérie et au Soudan, parce qu'on a vu le prêtre arabe passé, ça n'a profité à aucun peuple. C'est ça qui fait mal. Parce qu'aujourd'hui, le conseil militaire au Soudan demande s'il faut dire, à la société civile ou à l'opposition de leur présenter quelqu'un qui va mener la transition avec eux. Mais pour l'instant, il n'y a personne. Là, c'est des questions qui se posent. En Algérie, il y a contradiction entre peuples maintenant parce qu'ils n'ont personne préparé pour aller, s'il faut dire, s'infiltrer et pour mieux déranger le pouvoir, en fait, de bouteilles sans rester. Donc, c'est là où il y a problème. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Parce que ces militaires-là qui sont au pouvoir, Stéphanie, ils sont restés longtemps avec leurs maîtres qui sont déchus et destitués aujourd'hui. Maintenant, eux, ils ont le système avec eux. L'armée, par exemple, au Soudan est divisée. Aujourd'hui, moi, j'ai peur pour le Soudan. L'Algérie, ça peut passer. Mais au Soudan, j'ai peur parce que ce pays-là a toujours été en insécurité. Donc,
vous faites référence à la guerre du Darfour, hein, non?
Oui, bien sûr, Stéphanie. Donc, ce civil-là qui viendra pour reprendre les règnes, assurer la transition, moi, je pense qu'il aura des gros problèmes parce qu'ils ont une armée qui est divisée. Donc, ceux de Mar et de ceux qui sont encore là, d'abord, l'armée a déclaré ne pas extrader.
Oui, alors oui, Omar El-Béchir est sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale.
Il n'ira pas.
Alors, je vais vous dire précisément ce qu'ont dit les les membres hein, du conseil de transition militaire. Alors, dans un premier temps, ils ont assuré vendredi qu'ils refuseraient d'extrader M. Béchir. Et lundi soir, le général Jalaluddin Cher, membre du conseil militaire, indiquait que la décision d'extrader ou non Omar el-Béchir vers la CPI sera prise par un gouvernement populaire élu et non par le conseil militaire.
Oui. Ben, de toute façon, Stéphanie, pourquoi on va l'envoyer à la CPI? Moi, je suis contre la CPI aujourd'hui parce que la CPI, finalement, est incrédible. Et la CPI n'est pas indépendante parce que, regarde ce qui s'est passé pour parler de la CPI en question. Ils ont eu la procureure, là, Madame Fatou Bensouda, les États-Unis l'a refusé le visa pour aller aux États-Unis parce qu'ils enquêtent sur
l'Afghanistan.
Les crimes des soldats
américains. La CPI a refusé d'enquêter, d'ouvrir des enquêtes sur l'Afghanistan.
Voilà, bon. Ils ont abandonné les charges. Mmh. C'est une juridiction nulle, finalement.
Oui, donc, revenons sur le Soudan, partons pas sur la CPI, voilà. Il ne reste pas beaucoup de minutes. Mais ce que vous voulez dire, finalement, si je comprends bien et je peux me faire l'interprète de votre pensée, mon cher William, vous dites finalement, le Soudan, s'il réussit sa révolution, n'a pas besoin d'envoyer Béchir à la CPI, autant le juger soi-même, c'est bien ça.
Oui, voilà. Il doit être jugé là-bas. Parce que,
merci.
Il faudrait qu'il y ait des témoins, il faudrait qu'il y ait des gens qui vivent, qui doivent vivre, en fait...
On ne sait pas trop où il est, hein, d'ailleurs, Omar el-Béchir. Hein, il est en résidence surveillée, mais son lieu de détention n'est pas été précisé. Hein.
Il est avec ses amis, c'est lui qui les a tous façonnés. On va lui faire du mal. Mais c'est ce qui est sûr, s'il faut le juger, qu'on le juge au Soudan. Tant mieux. Peu importe leur juridiction, mais qu'il soit jugé là-bas. C'est pas peine de... Alors, ces pays, quand ils vont là-bas, ils sont plus à l'aise que même dans leur pays. Moi, je préfère qu'ils soient jugés là. Et il y a une humiliation en même temps parce que tout le monde aura la possibilité et la possibilité d'aller au tribunal pour aller vivre ce procès. Et ça peut être médiatisé, ça passe à la chaîne nationale de leur télévision et autres. C'est aussi une bonne chose pour ceux-là, des familles des victimes et nous tous là aussi, qui voulons aussi voir que non, bon, aujourd'hui l'Afrique, bon, ces criminels-là, sont jugés carrément chez eux. Ils ont commis des crimes là-bas, Stéphanie. Pourquoi les envoyer plus loin encore? Ça ne sert à rien à ces pays, Stéphanie. Je suis désolé.
C'est très clair.
Et pour moi, ça ne sert à rien.
C'est pas le sujet, William, mais c'est très clair. On a bien compris. Merci. William qui rappelait hein, que l'ancien désormais président soudanais Omar el-Béchir était sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Alors après les situations en Libye, Yémen et Syrie hein, qui demeurent instables, comment garantir des transitions apaisées en Algérie et au Soudan? 33 1 55 07 58 00 pour nous donner votre avis. Il y a Gino du côté des États-Unis qui nous dit les dictateurs africains sont en train d'être renversés 1 à 1. Hier c'était l'Algérie et le Soudan, demain, ce sera le Tchad, le Cameroun, le Gabon et le Congo-Brazzaville, estime Gino, depuis les États-Unis. Et quelques messages hein, sur Facebook, facebook.com/journal des auditeurs, la page de l'émission. Il y a Issa Ngalaisou qui nous dit « J'aime mon pays, le Tchad, voilà ». Beaucoup de gens hein, pensent au Tchad. D'ailleurs, hein, en Centrafrique, on est plutôt inquiet aussi hein, de la situation au Soudan. On craint hein, qu'une déstabilisation du Soudan n'ait des répercussions sur la Centrafrique. On sait hein, qu'en Centrafrique aussi, les groupes armés ont parfois pu trouver refuge, une base arrière au Soudan. C'est un peu la même configuration d'ailleurs aussi entre le Mali et l'Algérie. Kevin nous dit également sur Facebook que la meilleure façon hein, pour le Soudan, c'est d'organiser vite des élections avant que la situation ne devienne désastreuse. Moi, je pensais que peut-être le peuple hein, pouvait se calmer, nous dit Kevin, après la destitution du président hein, par l'armée. À ce stade, hein, j'aimerais dire mes félicitations à l'armée, car cela ne va pas être facile, hein, finalement. Kevin qui dit, voilà, continuons à soutenir plutôt l'armée, qui a fait preuve, hein, peut-être, de bonne foi. Il y a Christian, toujours, également, hein, depuis le Tchad, Christian, qui nous dit, il faut reconnaître le courage de l'armée, voilà, qui a rendu cette contestation positive et possible. L'armée a pris conscience d'être républicaine pour sauver le peuple, pour garantir des transitions démocratiques dans ces pays. Il faut observer la voix du peuple, nous dit Christian. On arrive à la fin de cette émission. Voilà, merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur notre page facebook.com/journal des auditeurs. Vous pouvez également laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio. Notez-le bien, je vous donne le numéro. Le numéro du répondeur, c'est le 33 1 55 07 58 05 00. 33 1 55 07 58 05. Ça fait beaucoup de numéros, tout ça. Il y a bien sûr toujours le WhatsApp hein, sur lequel vous pouvez intervenir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, hein, nous envoyer vos messages. C'est pareil pour le répondeur d'ailleurs. Numéro WhatsApp de l'émission et de la radio, c'est le 33 7 66 19 77 69 33 7 66 19 77 69. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, nous les lirons volontiers à l'antenne. On se donne rendez-vous demain, mercredi, pour une nouvelle édition du journal des auditeurs. En attendant, restez bien à l'écoute des programmes d'Africa Radio, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. À demain.